Monsieur Gilles Capy, vous êtes le délégué régional EDF pour l'Occitanie. Bonjour et merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Galaxie 98.5 FM, la radio du sud toulousain.
Mais écoutez, bonjour à vous. C'est un plaisir d'être à nouveau sur les antennes de Radio Galaxie, qui est une radio que j'aime particulièrement. Et donc je vais partager avec vous le plaisir d'échanger sur ce contexte de crise et tout ce qui s'en est suivi pour le groupe EDF et plus globalement pour toutes les habitants, tous les habitants et les entreprises de notre Occitanie.
Depuis le 17 mars 2020, presque deux tiers des Français ont été placés en situation de confinement, ce qui a provoqué des changements importants dans les habitudes de travail et de consommation. Pouvez-vous nous dire comment EDF a fait face à cet épisode exceptionnel ?
Alors effectivement, vous avez raison de rappeler que dès lors que le pays, une région, un territoire est confronté à une crise, la question de l'électricité, surtout de son maintien, est une question cruciale. D'ailleurs, EDF et l'électricité sont considérés comme des organisations d'importance vitale, parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas d'électricité, ou si elle est perturbée, eh bien toute la chaîne des services aux personnes de production des biens et des services s'en trouve profondément troublée. Et face à une situation comme ça, notre entreprise, qui a préparé depuis longtemps des plans pour faire face aux crises, hein, pour les raisons que je viens d'évoquer, s'est de suite mis en format dès la mi-mars, comme vous le rappeliez, en format de gestion de crise, avec un objectif prioritaire qui est de garantir la continuité de l'alimentation électrique dans notre région, dans le pays, en France et plus globalement dans les pays où nous sommes. Pour atteindre cet objectif, qui vient de suite après l'objectif de garantir la santé des salariés et des prestataires, bien entendu, en fait, on a procédé très vite à une partition de l'entreprise avec, d'une part, toutes les fonctions tertiaires, les fonctions support, les conseillers clientèle, les interlocuteurs privilégiés des collectivités locales, etc., se sont mis en télétravail. Donc nous avons équipé très très rapidement l'ensemble du personnel, c'est entre 60 et 70%, se sont mis à travailler depuis chez eux, en télétravail. Donc ça a nécessité des investissements informatiques et une organisation plutôt informatique très importante, parce que on a atteint d'ailleurs à un moment donné 75 000 connexions simultanées sur notre réseau informatique, ce qui prouvait que l'activité était très importante. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, évidemment, tous nos agents, notre personnel ne peut pas travailler en télétravail parce qu'il y a des activités de production. Pour ce qui nous concerne, nous, évidemment, Golfech, tous les barrages pyrénéens et ceux de l'Aveyron, les activités de production d'énergie via les éoliennes solaires qui nécessitent de la maintenance, de la surveillance, etc., avec des interventions souvent physiques. Et donc là, on s'est mis dans une situation où on a établi des plannings de travail avec des équipes qui pouvaient se relayer et donc assurer la sécurité absolue de ces activités, qui sont des activités qui comportent des risques, la sécurité absolue, et surtout la continuité de la production et la sécurité des personnels. Et donc, ce que l'on peut dire à l'heure où on parle là aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a eu à déplorer aucune incidence technique et d'alimentation électrique majeure, et également une gestion tout à fait efficace de la partie sanitaire, je vais dire, concernant notre entreprise. Donc voilà, on s'est organisé très vite parce que nous avions des plans, évidemment, qui sont un peu dans l'ADN de notre entreprise, et l'entreprise s'est déformée très rapidement en deux parties, comme je vous le disais, en télétravail et l'autre partie sur le terrain. Et s'agissant de l'autre partie sur le terrain, je dois aussi souligner, au-delà des activités de production, le travail formidable qu'a fait notre filiale Dalkia, puisque vous le savez sûrement, Dalkia est un des leaders de services de production de chaleur, de gestion des équipements dans les hôpitaux. Et Dalkia a mis en place un dispositif qui a permis aux hôpitaux du point de vue donc de la gestion des utilités de la chaleur, de l'énergie, de ne rencontrer aucun problème et je tenais à le souligner.
Et avez-vous dû faire des aménagements spécifiques pour répondre à cette urgence ?
Ah ben des aménagements spécifiques, oui, qui sont, par exemple, si vous voulez, on a mis au repos une partie des personnels dont on savait qu'on allait les astreindre à assurer la continuité, voire le secours. Si vous avez quelqu'un qui est indisponible un jour dans une équipe de quart, dans une centrale ou dans un barrage, il faut que immédiatement vous puissiez le remplacer. Donc, si vous voulez, les électriciens, on raisonne souvent, en mettant en place une organisation, on raisonne souvent sur le N-1 et le N-2, c'est-à-dire qu'on essaie de couvrir le risque sur un premier palier, et ensuite on prévoit qu'est-ce qui se passe si le premier palier lui-même est défaillant. Et donc, toutes les organisations dans les centrales de production notamment, et ou les services aux hôpitaux, donc que j'évoquais tout à l'heure, s'inspiraient de ces principes-là.
La situation actuelle est très problématique, voire critique pour un très grand nombre de personnes, d'entreprises ou d'associations. EDF a mis un plan d'urgence. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, absolument, parce que au-delà de notre mission première, hein, qui est évidemment l'énergie, toute notre histoire s'est construite sur ces valeurs, cette valeur de service public, de solidarité. Et donc, en même temps que nous mettions en place le plan opérationnel de production et de service, nous avons décidé très vite d'un plan d'urgence en faveur de trois types de bénéficiaires, en priorité les clients là que vous évoquez, parce qu'ils sont en situation difficile de chômage technique ou d'entreprise, des petits entrepreneurs, des TPE, etc., qui ont pour raison de cessation d'activité, des difficultés pour payer. Donc là, nous avons pris la décision très très vite de suspendre les relances et les délais de paiement classiques pour les reporter jusqu'au mois de septembre en attendant que nos clients puissent retrouver des conditions normales.
Ce plan d'urgence, c'est une initiative Occitanie ou une initiative nationale ?
Alors ça, c'est une décision nationale et qui s'est appliquée sur l'ensemble du territoire. Et bien entendu en Occitanie. D'autre part, au-delà des clients eux-mêmes que j'évoquais à l'instant, nous avons également pris des dispositions pour payer plus vite des fournisseurs qui nous avaient réalisé des prestations juste avant le Covid, le confinement. D'habitude, on paye à 60 jours fin de mois. Vous savez que ce sont des règles communes partagées dans le monde des affaires. Et donc là, nous avons pris des dispositions pour repallier tous nos fichiers des fournisseurs très petites entreprises et PME, hein, parce que c'était notre cible, et pour lesquels nous avons actionné un dispositif particulier de règlement immédiat de nos fournisseurs qui étaient en attente de paiement pour des prestations réalisées. Enfin, le troisième volet de notre plan d'urgence solidaire, je vais appeler ça comme ça, a consisté à mobiliser notre fondation pour aider des associations d'urgence, de distribution des repas aux soignants, des dons de masques également aux soignants en début de pandémie, de fournitures d'ordinateurs pour les jeunes. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes défavorisés qui ont des difficultés à pouvoir suivre les cours numériques, quoi, les cours à distance. Donc là, on s'est adressé à un certain nombre d'associations ou qui nous ont sollicité. Souvent, en passant, si je prends l'exemple des ordinateurs en plaçant en partenariat avec le recteur, hein, avec les recteurs d'académie pour organiser et flécher ces aides-là, ou directement auprès d'associations, d'entreprises et quartiers, par exemple à Montpellier, ou Secours Populaire ici à Toulouse, quoi. On a actionné d'ores et déjà depuis le début de la crise ces aides-là, et on a aussi, à l'interne d'entreprises, à l'interne d'EDF, mis en place une plateforme qui s'appelle Human Pact, pardon pour l'anglicisme, qui consiste à proposer à nos salariés qui sont en télétravail de donner quelques heures de leur temps pour aider à l'aide scolaire, par exemple, ou les gens qui sont en recherche d'emploi, qui ont cessé, évidemment, pendant cette période-là, de les aider à préparer leur entretien. Bref, un certain nombre de missions. Je crois que pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on doit en être à 50 missions proposées à nos collaborateurs en relation avec des associations. Et donc la connexion est en train d'être faite entre des volontaires, hein, puisque là il n'y a rien d'obligatoire concernant notre personnel, mais il y a des volontaires qui acceptent d'aider les associations qui sont très satisfaites d'avoir ce concours en cette période. Et puis dernier point, nous avons chez EDF un fonds qui s'appelle le fonds FAP, qui en fait est un fonds alimenté par le personnel qui tous les ans, sur la base du volontariat, verse une somme d'argent. Et cette somme d'argent, elle est abondée à 100% par l'entreprise. Et donc, nous avons un certain nombre de fonds. Et là, je parle pour la France, mais en Occitanie, nous avons beaucoup de dossiers d'aide par ce biais-là, qui permettent à des associations, effectivement, de développer leur activité dans les registres, encore une fois, de la solidarité, de l'intégration des publics fragiles. Donc ce fonds-là est mobilisé également pour aider ces associations, alors qu'ils doivent monter un dossier, etc. Enfin, elles connaissent la procédure, mais pour accélérer les délais d'instruction que ce dispositif prévoit.
Il va y avoir bientôt le déconfinement, donc la reprise progressive en mode dégradé des différentes entreprises et des travailleurs. Comment est-ce que vous, EDF, vous pouvez anticiper cette reprise ?
On l'anticipe parce qu'on passe beaucoup de temps pour imaginer les scénarios d'anticipation. Ce qu'on va faire, c'est d'abord effectivement vérifier que nous avons tous les dispositifs de protection des salariés et de nos prestataires opérationnels, ce qui sera le cas puisque chaque équipe a été dotée de tout le matériel, le gel, des lingettes, des masques chirurgicaux, des masques FFP2 pour ceux qui les nécessitent, des masques tissu papier pour ceux qui vont prendre des transports ou qui vont se déplacer à des rendez-vous, etc. Donc tout ce travail là est en train d'être déployé en relation avec Paris, hein, et déclinaison sur chacune des 13 régions françaises. Ça c'est le premier point. Ensuite, on va garder entre le 11 mai et le 2 juin, hein, qui est le deuxième palier. On va garder une majorité d'argent en télétravail puisqu'on se rend compte que tant du point de vue de l'efficacité du dispositif que de la gestion du risque, tant qu'on n'est pas sorti définitivement, c'est quand même une recommandation d'abord qui a été faite par le gouvernement et puis que nous allons retenir, avec un retour progressif, si vous voulez, des agents en télétravail sur leur lieu de travail, ce qui nécessite de réaménager les espaces parce qu'on a souvent des open space, hein, donc des lieux où plusieurs salariés travaillaient en proximité, donc il faut les réaménager. Il faut avoir des stratégies de nettoyage des locaux qui sont largement renforcées. Donc tout ça est en train d'être mené. Ensuite, si vous voulez, la stratégie de reprise de travail, c'est ce que j'ai écrit au préfet de région dernièrement et à la présidente de la région pour indiquer quel est le plan de relance que je proposais en Occitanie. L'idée c'est quand même de reprendre très vite des travaux, notamment ceux qui ont lieu, ceux qui sont en lien avec les bâtiments de travaux publics, de les reprendre très très vite. Et donc là, nous avons identifié un certain nombre de chantiers qui ont été interrompus à partir de mi-mars. Et donc là, ce plan uniquement sur l'Occitanie va représenter à peu près 100 millions d'euros de reprise d'activité pour des chantiers qui étaient en cours et qui ont été suspendus. Ensuite, il y aura une deuxième catégorie de chantiers de relance, finalement, qui va consister à des projets que nous avons en portefeuille, mais qui nécessitent, eux, une instruction administrative réglementaire qui n'a pas eu lieu encore, et donc pour lesquels nous demandons, nous, là, pour le coup, une accélération pour nous permettre de réaliser ces chantiers. En général, ce sont des grands chantiers, des grands projets de création, de production d'énergie renouvelable ou d'hydraulique. Et bien sûr, notre grand projet, mais qui ne dépend pas d'une décision régionale, mais nationale et européenne, notre grand projet de création d'un stockage nouveau sur nos sites de Lot-Truyère, un dossier extrêmement important de plusieurs centaines de millions d'euros qui serait très important pour l'économie de la région et aussi pour l'équilibre énergétique, parce que un stockage de sel naturel permet de compenser très très vite l'alternance des éoliennes et du solaire, hein, les intermittences, pardon, pas l'alternance, c'est l'intermittence. Et donc ce serait très utile dans notre région, où, comme vous le savez, nous avons une politique globale de très dynamique en termes de production de NR. Donc voilà à peu près comment on imagine à la fois la reprise sur le plan du personnel, donc progressivité pour les gens qui sont actuellement en télétravail, reprise du travail dans des conditions de sécurité sanitaire pour tout ce qui est opérationnel, chantier, etc., qui ont été suspendus et qu'il faut reprendre. Et puis ensuite, un volet qui est qui sera dans un deuxième temps et qui s'inscrira probablement dans une stratégie globale qui est en train de préparer la région, etc., sur les activités à relancer. Mais je suis sûr que l'énergie, la transition énergétique, sera l'un des sujets phares ou importants aux côtés de l'aéronautique. L'énergie fera partie du plan de relance de manière prioritaire.
Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'EDF se prépare à l'avance pour faire face à tout type de situation. Aujourd'hui, quels sont les enseignements que vous avez déjà tirés de cette crise du Covid-19?
C'est une très bonne question, parce que chaque crise nous apprend. Vous voyez, on a l'habitude des crises d'intempéries, hein. Mais une crise d'intempéries où on sait mobiliser des forces d'intervention rapide, très très vite sur les territoires pour raccourcir les délais, par exemple, de réalimentation, etc. Les crises climatiques, elles ont un début et elles ont une fin. Notre objectif, c'est de la rapprocher le plus possible du début. Et donc, on met en place des dispositifs qui permettent, et souvent, de réussir. Puisqu'on réalimente, par exemple, nos clients de manière beaucoup plus rapide qu'il y a 20 ans, par exemple. Parce que on a des moyens de télécommande, de moyens numériques, etc. Et puis, parce qu'on a ces stratégies dont vous parlez, d'organisation. Cette crise-là, elle est inédite parce que, d'abord, elle touche tout le monde, elle est liée à des causes dont on n'a pas encore de point de vue scientifique, médical, sanitaire, identifié la manière définitive de le combattre. Et puis surtout, on voit bien que c'est une crise dont on ne sait pas situer avec précision la fin. Et donc, effectivement, nous allons procéder lorsque ce sera le moment. Il y a déjà des décisions qui ont été prises. Si je vous parlais par exemple du télétravail, je vous assure que quand il s'est agi de décider en 48 heures de mettre 60 000 personnes en télétravail, vous imaginez ce que ça peut faire. Ça, on ne l'avait pas prévu en revanche. Hein. Ce que ça peut faire en termes de réactivité pour équiper tout le monde, faire une connexion fiable chez chacun des salariés, lui permettre une connexion sécurisée, parce que nous avons effectivement besoin de sécurité informatique très importante dans nos échanges, puisque nous avons des données qui concernent les clients, qui concernent nos outils de production, donc il n'est pas question de passer par le système public. Et donc là, très rapidement, on a pris des mesures d'hygiène d'utilisation, si vous voulez, pour demander aux gens de se connecter à certaines heures ou d'éviter lorsqu'on se connectait, de consulter des fichiers qui consomment beaucoup de ressources. On a essayé de gagner un peu de temps, donc ça a fonctionné dès le début, pour ensuite équiper techniquement, si vous voulez, avec des opérations sur le système informatique, d'équiper l'ensemble des collaborateurs. Donc ça a été une première leçon et on saura demain la reproduire si jamais. Et ensuite, bon, il faudra, comme on le fait après chaque crise, si vous voulez, on a un temps de retour d'expérience où on redémonte, si vous voulez, de manière très précise tout ce qui s'est passé. On essaie d'identifier les points d'amélioration et où ensuite on intègre tous ces points d'amélioration dans les plans que nous avions avant et que nous aurons encore demain et qui seront enrichis de l'expérience que nous aurons vécue du point de vue de l'entreprise.
Avec cette reprise, on va avoir en même temps des gens qui vont être chez eux en télétravail et des entreprises qui vont se remettre à refonctionner. Et vous ne craignez pas une trop forte demande? Aussi, s'il y avait un message à faire passer auprès des usagers, quel serait-il?
On a la capacité de répondre à la reprise, hein, d'un point de vue de l'alimentation électrique. Là-dessus, on n'a pas de soucis et pas d'alerte. La consommation, si vous voulez, globalement depuis le début de la crise, s'est réduite d'à peu près 20%. Donc c'est quand même significatif et c'est normal. C'est lié à l'arrêt massif, hein, de l'activité économique. Donc celle-ci va reprendre progressivement et ben, c'est tant mieux pour tout le monde, parce que ça voudra dire que si ça reprend, tout le monde va pouvoir retrouver son travail, retrouver voilà son salaire, etc. Même si on sait que il y aura quand même un certain nombre de petites entreprises, notamment qui seront en difficulté. Donc et là, les plans de relance seront là pour essayer de pallier à ça. Mais d'un point de vue de l'électricité, je dirais non, au contraire, parce que cette crise du Covid qui n'est pas terminée encore, hein, on le sait, elle n'exonérera pas d'avoir demain, après-demain, d'autres crises, mais qui seront d'ordre climatique, comme on a eu avant, y compris dans la région, avec des inondations, des événements climatiques d'intensité beaucoup plus forte. Et donc nous, on a une position extrêmement claire là-dessus. En France, on sait fabriquer une électricité qui est décarbonée. Vous savez que le CO2, le carbone, est le principal facteur du dérèglement climatique. Donc, moi, le discours que je tiens, c'est de dire il faut au contraire augmenter l'électricité dans les usages où il n'y est pas. Parce que le dérèglement climatique, il est lié à l'émission de carbone sur deux secteurs majeurs, les transports et les bâtiments, où on utilise encore beaucoup de fuel et de gaz qui sont émetteurs de CO2. Donc en fait, on dit, nous, qu'il faut électrifier les usages. Pour les poids lourds, il y a des solutions hydrogènes. C'est que la région, également, soutient de manière très très forte, très dynamique, le vecteur hydrogène comme combustible futur. Donc nous, EDF, on est sur cette logique-là. Nous, ce qu'on veut, c'est permettre à tout le monde, que ce soit les particuliers et les entreprises, de conserver le bien-être que nous avons quand même aujourd'hui, globalement, qu'il faut améliorer pour certains, la population, mais dans un cadre où on ne dérègle plus le climat. On n'a plus le choix. Et donc, il faut, dans la stratégie de relance qu'on aura d'ailleurs, hein, vraiment marquer cette option et faire en sorte que ce soit dans les transports, que ce soit dans les bâtiments, il va y avoir un grand dossier, un grand projet aussi d'économie d'énergie. Parce que la meilleure énergie qui existe, c'est celle qu'on ne consomme pas, on le sait tous. On avait un président à l'époque, qui s'appelait Marcel Boiteux, un grand président d'EDF, qui disait déjà à l'époque, il y a 30 ans, il faut plus d'usage pour l'électricité et moins d'électricité par usage. C'est-à-dire qu'il faut combiner à la fois de nouvelles utilisations de l'électricité, je le redis, sur le transport et les bâtiments, mais à la fois pour une quantité d'électricité moins importante. Et ça, on sait le faire, et on saura le faire de plus en plus avec toutes les innovations qu'on est en train de déployer, y compris en Occitanie, où on est en relation, nous, EDF, avec beaucoup, beaucoup de start-up, de petites entreprises très innovantes, travailler avec elles sur ces nouvelles technologies qui permettront aux gens de dépenser moins d'électricité. Donc, voilà, pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de problème d'électricité, de rationnement, voilà. Il y a au contraire à soutenir le développement de l'électricité dans des conditions où chaque usage d'électricité soit accompagné d'un dispositif d'économie, de performance énergétique. Et ça, c'est quand même la condition. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une stratégie nationale du bas carbone qui a été votée. C'est quand même la condition sine qua non de notre développement demain, qui doit respecter absolument le climat.
Monsieur Gilles Capi, délégué régional EDF Occitanie, merci de ce temps que vous nous avez accordé sur Radio Galaxie.
Ben, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Et puis, je souhaite à Radio Galaxie longue vie et développement serein. Voilà, merci à vous.